L'inégalité du capital dans l'Europe de la Belle Époque. Les données disponibles pour les autres pays européens, malgré leurs imperfections, démontrent sans ambiguïté que l'extrême concentration des patrimoines au XVIIIe et XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale est un phénomène qui concerne l'ensemble de l'Europe et pas seulement la France. Au Royaume-Uni, il existe à partir des années 1910-1920 des statistiques successorales détaillées qui ont été abondamment exploitées par les chercheurs, notamment par Atkinson et Harrison. Si on les complète par les estimations disponibles pour les années récentes, ainsi que par les estimations plus fragiles et moins homogènes réalisées par Peter Lindert pour 1810 et 1870 à partir d'échantillons d'inventaire au décès, on obtient une évolution d'ensemble très proche de la trajectoire française, avec un niveau général d'inégalité toujours un peu plus élevé outre-Manche. La part du décile supérieur était de l'ordre de 85% du patrimoine total en 1810-1870 et dépasse les 90% vers 1900-1910. La part du centile supérieur serait passée d'environ 55-60% du patrimoine total en 1810-1870 à près de 70% dans les années 1910. Voir graphique 10.3. Les sources britanniques sont imparfaites, en particulier pour le 19e siècle, mais les ordres de grandeur sont parfaitement clairs. La concentration des patrimoines était extrêmement forte au Royaume-Uni au 19e siècle et ne manifestait jusqu'en 1914 aucune tendance à la baisse, au contraire. D'un point de vue français, le plus frappant est que l'inégalité du capital était finalement à peine plus forte au Royaume-Uni qu'en France à la Belle Époque, alors même que les élites républicaines du moment aimaient décrire la France comme un pays égalitaire par comparaison aux voisins monarchiques d'outre-Manche. En vérité, la nature formelle du régime politique n'avait visiblement que peu d'impact sur la réalité de la répartition des richesses dans les deux pays. En Suède, où des données très riches débutant dans les années 1910 ont récemment été exploitées par Olson, Roine et Waldenström, et où il existe également des estimations réalisées pour 1810 et 1870, notamment par Lee Solto, on constate également une trajectoire très proche de ce que l'on observe en France et au Royaume-Uni. Voir graphique 10.4. En particulier, les sources patrimoniales suédoises confirment ce que nous avons déjà appris grâce aux déclarations de revenus. La Suède n'est pas le pays structurellement égalitaire que l'on imagine parfois. La concentration des patrimoines a certes atteint en Suède dans les années 1970-1980 le point le plus bas observé dans nos séries historiques, avec à peine plus de 50% du patrimoine total pour le décile supérieur et guère plus de 15% pour le centile supérieur. Mais outre qu'il s'agit tout de même d'une inégalité élevée qui a augmenté sensiblement depuis les années 1980-1990, la concentration des patrimoines au début des années 2010 semble à peine plus faible qu'en France, le fait important sur lequel il me semble essentiel d'insister ici et que la concentration des patrimoines en 1900-1910 était tout aussi forte en Suède qu'en France et au Royaume-Uni. Toutes les sociétés européennes à la Belle Époque semblent se caractériser par une très forte concentration des patrimoines. Il est essentiel de comprendre quelles en sont les raisons et pourquoi cette réalité s'est profondément transformée au cours du siècle dernier. Il est intéressant de noter que ce niveau extrême de concentration de patrimoine, de l'ordre de 80-90% du capital possédé par le décile supérieur, dont environ 50-60% pour le centile supérieur, semble également se retrouver approximativement dans la plupart des sociétés jusqu'au XIXe siècle, et en particulier dans les sociétés agraires traditionnelles, aussi bien à l'époque moderne qu'au Moyen Âge et dans l'Antiquité. Les sources disponibles sont trop fragiles pour espérer faire des comparaisons précises et étudier des évolutions temporelles, mais les ordres de grandeur obtenus pour la part du décile supérieur et du centile supérieur dans le total des fortunes, en particulier dans le total des terres agricoles, sont généralement très proches de ce que nous trouvons pour la France, le Royaume-Uni et la Suède du XIXe siècle et de la Belle Époque. L'émergence de la classe moyenne patrimoniale. La double interrogation qui va désormais nous préoccuper est donc la suivante. Pourquoi les inégalités patrimoniales étaient-elles si extrêmes, et même de plus en plus fortes, jusqu'à la Première Guerre mondiale? Et pourquoi, en dépit du fait que les patrimoines dans leur ensemble ont retrouvé en ce début de XXIe siècle leur prospérité du début du XXe siècle, comme le montre l'évolution du rapport capital-revenu, la concentration du capital se situe-t-elle aujourd'hui nettement au-dessous de ses records historiques? Et est-on bien sûr que ces raisons soient définitives et irréversibles? De fait, la seconde conclusion qui ressort très clairement des données françaises représentées sur le graphique 10.1 est que la concentration des patrimoines comme celle des revenus issus des patrimoines ne s'est apparemment jamais totalement remise des chocs des années 1914-1945. La part du décile supérieur, qui atteignait 90% du patrimoine total dans les années 1910, est tombé à 60-70% dans les années 1950-1970. La part du centile supérieur a chuté plus fortement encore, passant de 60% dans les années 1910 à 20-30% dans les années 1950-1970. Par comparaison aux tendances antérieures au premier conflit mondial, la rupture est nette et massive. Depuis les années 1980-1990, les inégalités patrimoniales sont certes reparties à la hausse, et nous verrons que la globalisation financière rend de plus en plus difficile la mesure des patrimoines et de leur répartition dans le cadre national. L'inégalité du capital au XXIe siècle devra de plus en plus être envisagée au niveau mondial. Mais, quelles que soient ces incertitudes, il ne fait aucun doute que les inégalités patrimoniales se situent actuellement nettement au-dessous de ce qu'elles étaient il y a un siècle, environ 60-65% du patrimoine total pour le décile supérieur au début des années 2010, ce qui est à la fois très élevé et sensiblement plus faible qu'à la Belle Époque. La différence essentielle est qu'il existe maintenant une classe moyenne patrimoniale possédant environ un tiers du patrimoine national, ce qui n'est pas rien. Les données disponibles pour les autres pays européens montrent là encore qu'il s'agit d'un phénomène général. Au Royaume-Uni, la part du décile supérieur est passée de plus de 90% à la veille du premier conflit mondial à environ 60-65% dans les années 1970. Elle est actuellement de l'ordre de 70%. La part du centile supérieur s'est littéralement effondrée à la suite des chocs du XXe siècle, passant de près de 70% dans les années 1910 à guère plus de 20% dans les années 1970, pour finalement se situer aux alentours de 25-30% au début des années 2010. Voir graphique 10.3. En Suède, les niveaux de concentration du capital sont toujours un peu plus faibles qu'au Royaume-Uni, mais la trajectoire d'ensemble est finalement assez proche. Voir graphique 10.4. Dans tous les cas, on constate que la chute des 10% les plus riches de la hiérarchie des fortunes s'est faite pour l'essentiel au bénéfice de la classe moyenne patrimoniale, définie comme les 40% suivants, et non de la moitié la plus pauvre de la population, dont la part dans le patrimoine total a toujours été minuscule, généralement autour de 5%, y compris en Suède, où elle n'a jamais dépassé 10%. Dans certains cas, en particulier au Royaume-Uni, on constate que la chute des 1% les plus riches a également bénéficié pour une part non négligeable aux 9% suivants. Mais, par-delà les particularités nationales, la similitude générale entre les différentes trajectoires européennes est très frappante. La transformation structurelle majeure est l'apparition d'un groupe central représentant près de la moitié de la population, constitué de personnes ayant réussi à accéder au patrimoine, et détenant collectivement entre un quart et un tiers du patrimoine national. L'inégalité du capital en Amérique. Examinons maintenant le cas américain. Là encore, il existe à partir des années 1910-1920 des statistiques successorales largement utilisées par les chercheurs, en particulier par Lampman, Kopchuk et Saez, avec toutefois des limites importantes lié au faible pourcentage de la population concernée par l'impôt fédéral sur les successions. Ces estimations peuvent être complétées par les enquêtes détaillées sur les patrimoines réalisés par la Federal Reserve américaine depuis les années 1960, exploitées notamment par Kenickel et Wolf, et par des estimations plus fragiles portant sur 1810 et 1870 et se fondant sur des inventaires au décès et un recensement des patrimoines exploités respectivement par Jones et Sholto. On constate plusieurs différences importantes entre les trajectoires européennes et américaines. Tout d'abord, il semblerait que l'inégalité des patrimoines en vigueur aux États-Unis autour de 1800 n'était pas beaucoup plus élevée qu'en Suède dans les années 1970-1980. S'agissant d'un pays neuf, composé pour une large part d'une population de migrants arrivés au Nouveau Monde sans patrimoine ou avec un capital limité, cela n'a rien de très étonnant. Le processus d'accumulation et concentration des fortunes n'a pas eu le temps de se mettre en place. Les données sont toutefois hautement imparfaites et varient fortement suivant que l'on considère les États du Nord, où des estimations indiquent des niveaux d'inégalité inférieurs à la Suède des années 1970-1980, ou les États du Sud, où l'inégalité est plus proche des niveaux européens de la même époque. La concentration croissante des patrimoines américains au cours du XIXe siècle semble bien établie. Autour de 1910, l'inégalité du capital est devenue très forte aux États-Unis, tout en demeurant sensiblement plus faible qu'en Europe, autour de 80% du patrimoine total pour le décile supérieur et environ 45% pour le centile supérieur. Voir graphique 10.5. Il est intéressant de noter que ce processus de rattrapage inégalitaire du Nouveau Monde sur la vieille Europe inquiétait beaucoup les économistes américains de l'époque. La lecture du livre consacré par Wilford King à la répartition des richesses aux États-Unis en 1915, première étude d'ensemble sur la question, est de ce point de vue particulièrement éclairante. Vu d'aujourd'hui, cela peut surprendre. Nous sommes habitués depuis quelques décennies maintenant à ce que les États-Unis soient plus inégalitaires que l'Europe, et même souvent se revendiquent comme tels. L'inégalité américaine est régulièrement décrite outre-Atlantique comme une condition du dynamisme entrepreneurial et l'Europe comme un temple de l'égalitarisme soviétoïde. Mais il y a un siècle, les perceptions comme la réalité étaient rigoureusement inverses. Il était évident pour tout le monde que le Nouveau Monde était par nature moins inégalitaire que la vieille Europe, et cette différence était également un sujet de fierté. À la fin du XIXe siècle, au cours de la période dite du « Gilded Age », où s'accumulent aux États-Unis des fortunes industrielles et financières inconnues jusqu'alors, c'est l'époque des Rockefeller, Carnegie, J.P. Morgan, de nombreux observateurs outre-Atlantique s'alarment à l'idée que le pays puisse perdre son esprit pionnier et égalitaire, en partie mythique, certes, mais partiellement justifié par comparaison à la concentration des fortunes européennes. Nous verrons dans la prochaine partie que cette peur de ressembler à l'Europe explique sans doute en partie l'invention en Amérique à partir des années 1910-1920 d'une fiscalité lourdement progressive sur les grosses successions, jugées contraires aux valeurs américaines, ainsi que sur les revenus jugés excessifs. C'est peu dire que les perceptions de l'inégalité, de la redistribution et des différentes identités nationales ont beaucoup changé depuis un siècle. L'inégalité américaine des patrimoines diminue au cours de la période 1910-1950, de même que l'inégalité des revenus, mais beaucoup moins fortement qu'en Europe. Il faut dire qu'elle part de moins haut et que les chocs causés par les guerres sont moins violents. Au début des années 2010, la part du décile supérieur dépasse les 70% du patrimoine total et celle du centile supérieur avoisine les 35%. Au final, la déconcentration des patrimoines a été relativement limitée aux États-Unis au cours du siècle écoulé. La part du décile supérieur est passée de 80% à 70% du patrimoine total, alors qu'elle est passée de 90% à 60% en Europe, voire graphique 10.6. La moyenne européenne a été calculée à partir des cas de la France, du Royaume-Uni et de la Suède, car tout indique qu'ils sont représentatifs. On voit tout ce qui sépare les expériences européennes et américaines. En Europe, le XXe siècle a conduit à une transformation complète de la société. Les inégalités de fortune, qui à la veille du premier conflit mondial étaient aussi fortes que sous l'Ancien Régime, se sont réduites à un niveau inconnu auparavant, à tel point que près de la moitié de la population a pu accéder à un minimum de patrimoine et a pu, pour la première fois, posséder collectivement une part non négligeable du capital national. Cela explique, au moins en partie, le grand élan d'optimisme qui anime l'Europe pendant les Trente Glorieuses. On a l'impression d'avoir dépassé le capitalisme, les inégalités et la société de classe du passé, ainsi sans doute que les plus grandes difficultés à accepter depuis les années 1980 que cette irrésistible marche en avant vers le progrès social se soit enrayée. On se demande encore quand le mauvais génie capitaliste va retourner dans sa bouteille. Aux États-Unis, les perceptions sont très différentes. Dans une certaine mesure, il existait déjà une classe moyenne patrimoniale, blanche, au début du XIXe siècle. Elle a été mise à mal pendant le Gilded Age, puis a repris des couleurs au milieu du XXe siècle, et est de nouveau mise à mal depuis les années 1970-1980. Ce yo-yo américain se retrouve d'ailleurs dans l'histoire fiscale du pays. Aux États-Unis, le XXe siècle n'est pas synonyme de grand bond en avant en matière de justice sociale. Les inégalités patrimoniales américaines sont en réalité plus fortes au début du XXIe siècle qu'elles ne l'étaient au début du XIXe. Aux États-Unis, le paradis perdu est celui des origines, celui dont parlent les Tea Parties, et non celui des Trente Glorieuses et de ses interventions étatiques destinées à faire courber l'échine au capital. La mécanique de la divergence patrimoniale, R versus G dans l'histoire. Essayons maintenant d'expliquer les faits observés. L'hyperconcentration patrimoniale qui caractérise l'Europe au XIXe siècle et jusqu'au premier conflit mondial. La forte compression de l'inégalité du capital à la suite des chocs des années 1914-1945 et le fait que la concentration des patrimoines n'ait à ce jour pas retrouvé ses records européens du passé. Précisons qu'aucune donnée à ma connaissance ne permet de déterminer avec certitude la part exacte des différents mécanismes dans le mouvement d'ensemble. On peut toutefois tenter de les hiérarchiser sur la base des sources et des analyses dont nous disposons. Voici la principale conclusion à laquelle je suis parvenu. La force principale, expliquant l'hyperconcentration patrimoniale observée dans les sociétés agraires traditionnelles et dans une large mesure dans toutes les sociétés jusqu'à la Première Guerre mondiale, le cas des sociétés pionnières du Nouveau Monde est, pour des raisons évidentes, très particulier et peu représentatif au niveau mondial et à très long terme, est lié au fait qu'il s'agit d'économies caractérisées par une faible croissance et par un taux de rendement du capital nettement et durablement supérieur au taux de croissance. Cette force de divergence fondamentale, déjà évoquée dans l'introduction, fonctionne de la façon suivante. Considérons un monde de croissance faible, par exemple de l'ordre de 0,5-1% par an, comme cela était le cas jusqu'au XVIIIe et XIXe siècle. Le taux de rendement du capital, dont nous avons vu qu'il était généralement de l'ordre de 4-5% par an, est par construction beaucoup plus élevé que le taux de croissance dans de telles sociétés. Concrètement, cela signifie que les patrimoines issus du passé se recapitalisent beaucoup plus vite que la croissance de l'économie, y compris en l'absence de tout revenu du travail. Par exemple, si G égale 1% et R égale 5%, alors il suffit d'épargner un cinquième des revenus du capital et de consommer les quatre autres cinquièmes pour qu'un capital hérité de la génération précédente progresse au même rythme que l'économie dans son ensemble. Si l'on épargne davantage, par exemple, parce que le capital est suffisamment considérable pour générer un train de vie acceptable en consommant une fraction plus réduite des rentes annuelles, le patrimoine s'accroîtra plus vite que la moyenne de l'économie et les inégalités patrimoniales auront tendance à s'élargir, tout cela sans qu'il soit nécessaire d'apporter le moindre revenu du travail. On voit donc, d'un strict point de vue logique, qu'il s'agit de conditions idéales pour que prospère une société d'héritiers, une société caractérisée à la fois par une très forte concentration patrimoniale et une grande pérennité dans le temps et à travers les générations de ces patrimoines élevés. Or, il se trouve qu'il s'agit très précisément des conditions qui caractérisent nombre de sociétés dans l'histoire, et en particulier les sociétés européennes au XIXe siècle. Comme l'indique le graphique 10.7, le taux de rendement pur du capital était nettement plus élevé que le taux de croissance en France de 1820 à 1913, en moyenne de l'ordre de 5%, alors que la croissance fluctuait autour de 1% par an. Les revenus du capital représentaient près de 40% du revenu national et il suffisait d'en épargner un quart pour générer un taux d'épargne de l'ordre de 10%, voire graphique 10,8, et permettre ainsi au patrimoine de progresser un peu plus vite que les revenus et à la concentration des patrimoines de croître tendanciellement. Nous verrons dans le prochain chapitre que l'essentiel des patrimoines au cours de cette période provient effectivement de l'héritage et que cette suprématie des capitaux hérités, en dépit d'un grand dynamisme économique pour l'époque et d'une impressionnante sophistication financière, s'explique par les effets dynamiques de l'inégalité fondamentale R supérieur à G. Les très riches données successorales françaises permettent d'être extrêmement précis sur ce point.